Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 26 août 2024. Voici le sommaire. L'armée malienne affirme avoir tué une vingtaine d'individus armés dimanche à Tinzawaten, près de l'Algérie. Le Danemark annonce la fermeture prochaine de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso. En Tunisie, le président Kais Saied invoque la sûreté nationale pour justifier son vaste remaniement annoncé dimanche. La Russie a mené ce lundi des frappes massives avec des drones et des missiles sur des sites énergétiques et des aérodromes en Ukraine. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et l'actualité sportive présentée par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, voici le journal. L'armée malienne a affirmé ce lundi avoir visé des cibles terroristes et tué une vingtaine d'individus armés. C'était lors d'une opération dimanche dans le nord du Mali. Les précisions avec Dili Diko.
Selon l'armée malienne, une mission de reconnaissance offensive a permis de repérer et d'identifier des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre gardés soigneusement dans la cour d'une concession à Tinzawaten. Une série de frappes ont permis de détruire ces cibles terroristes et de neutraliser une vingtaine d'individus armés, selon un communiqué des forces armées maliennes. C'est dans la même localité de Tinzawaten que les rebelles Touaregs et djihadistes ont affirmé avoir tué des dizaines de combattants russes et de soldats maliens à la fin juillet. L'armée malienne et ses alliés russes ont reconnu des pertes importantes sans donner de bilan précis. Les rebelles Touaregs ont perdu depuis 2023 le contrôle de plusieurs localités dans le nord du pays, après une offensive de l'armée malienne qui a culminé par la prise de Kidal, épicentre de toutes les rébellions au Mali.
Au Gabon, les autorités ont annoncé ce week-end avoir interpellé une trentaine de jeunes à Port-Gentil, dont des mineurs, après des actes de violence dans plusieurs quartiers de la capitale économique. Ces jeunes sont accusés d'avoir vandalisé des commerces et agressé des passants, armés de haches, de machettes, de bouteilles cassées et de couteaux, selon des informations relayées dimanche soir sur le compte X du ministère gabonais de l'Intérieur. La semaine dernière, ces jeunes avaient diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux en se présentant comme les plus grands bandits de Port-Gentil. Selon le site Gabon Review, 45 jeunes au total doivent être présentés à la justice lundi avant d'être déférés à la prison centrale de Port-Gentil. En Ouganda, 21 personnes ont été arrêtées ce lundi alors qu'elles marchaient notamment en direction du Parlement et de l'ambassade de Chine pour y remettre une pétition contre un méga projet pétrolier de Total Energy. Il y a 21 personnes arrêtées, dont 19 hommes et 2 femmes, a déclaré Samuel Wanda, l'un des avocats des manifestants arrêtés, précisant que parmi ces personnes, il y a 8 membres de la communauté touchée par le méga projet pétrolier. Le projet qui comprend le forage de 419 puits est dénoncé par des organisations de protection de l'environnement qui estime qu'il menace le fragile écosystème de la région et des populations qui y vivent. Le Danemark a décidé de fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, citant les coups d'état militaires dans ce pays. En revanche, Copenhague va ouvrir de nouvelles ambassades au Sénégal, au Rwanda et en Tunisie. Nani Talani.
En raison des coups d'état militaires qui ont fortement limité les possibilités d'action dans la région du Sahel, les ambassades seront fermées au Burkina Faso et au Mali, écrit la diplomatie danoise dans un communiqué. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie africaine, le Danemark va à l'inverse ouvrir des ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda, où il compte déjà un bureau qui doit être élevé à la qualité d'ambassade. Par ailleurs, les autorités de Copenhague entendent renforcer le personnel diplomatique et les ressources de ses ambassades en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana, avec 10 personnes en plus en 2026. Le Danemark compte aussi nommer un représentant spécial pour la région des Grands Lacs et du Sahel. La Suède doit fermer d'ici fin 2024 son ambassade à Bamako, où la junte militaire malienne a récemment ordonné l'expulsion de l'ambassadrice suédoise.
Au Soudan, au moins 132 personnes ont péri dans des inondations durant la saison des pluies cette année, a déclaré ce lundi le ministère de la Santé. Le nombre total d'États touchés est de 10, tandis que le nombre d'individus affectés s'élève à 129 650, a déclaré le ministère dans un communiqué. Le nombre total de décès a atteint 132, a-t-il ajouté, dans un premier bilan des inondations pendant la saison des pluies qui s'étale entre mai et octobre. En Tunisie, le président Kais Saied a procédé hier à un vaste remaniement ministériel à l'approche de l'élection présidentielle du 6 octobre. Il a invoqué des impératifs de sûreté nationale face à des blocages dans le fonctionnement du pays. Jean-Roger Bion.
Kais Saied a limogé hier soir 19 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de la Défense, après le changement surprise début août du Premier ministre Ahmed Achani, remplacé par Kamel Madouri. Dans un discours la nuit dernière, il a affirmé avoir pris cette décision à un mois et demi du scrutin présidentiel au nom de la sûreté nationale et de l'intérêt suprême de l'État qui passe avant toute autre considération. Selon lui, un système corrompu dont les acteurs espèrent un retour en arrière est parvenu à instrumentaliser un grand nombre de responsables de l'État et à en bloquer les rouages. Le président Saied, 66 ans, démocratiquement élu en 2019, s'est accaparé tous les pouvoirs le 25 juillet 2021. Depuis, il est accusé de dérive autoritaire par l'opposition. Face à M. Saied, qui brigue un deuxième mandat, seuls deux candidats ont été retenus par l'autorité électorale, Zouer Magzaoui, un ex-député de la gauche panarabe, et un industriel quadragénaire, Ayachi Zamel, chef d'un parti libéral.
Les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé ce lundi la fermeture de tous les gisements et terminaux pétroliers, ainsi que l'arrêt des exportations jusqu'à nouvel ordre sur fond de crise politique majeure, avec le gouvernement rival de Tripoli reconnu par l'ONU. Cette décision intervient en riposte à une prise de contrôle lundi matin de la Banque centrale de Libye et au remplacement de son gouverneur par les autorités de Tripoli. La Banque centrale centralise les recettes des exportations d'hydrocarbures et gère le budget de l'État, qui est ensuite redistribué entre les différentes régions, y compris la région de l'Est.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a lancé ce lundi au petit matin la plus importante vague de bombardements aériens depuis des semaines. Elle a affirmé viser des sites énergétiques lors de cette opération qui a fait au moins 4 morts dans l'ouest et le sud de l'Ukraine. Alexandrine Holoyon.
La Russie a attaqué avec plus de 100 missiles et une centaine de drones, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Il y a beaucoup de dégâts dans le secteur de l'énergie », a-t-il déclaré. Selon les autorités ukrainiennes, les bombardements ont fait au moins 4 morts et une vingtaine de blessés à travers le pays. Un appareil non identifié a survolé la Pologne, pays membre de l'OTAN, avant de disparaître des radars ce matin au moment des frappes russes, a annoncé l'armée polonaise. De son côté, le ministère russe de la Défense a indiqué avoir mené une frappe massive contre des aérodromes militaires et des sites énergétiques. Depuis le début de l'invasion en février 2022, la Russie bombarde régulièrement les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, forçant les autorités à rationner l'électricité durant les pics de chaleur et pendant l'hiver.
Les États-Unis ont condamné les frappes russes et réitéré leur soutien à Kiev. « Nous condamnons fermement la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et ses efforts destinés à plonger les Ukrainiens dans le noir alors que l'automne s'installe », a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche. « Washington va envoyer des équipements énergétiques à l'Ukraine pour réparer ce que la Russie a endommagé et renforcer la résilience du réseau énergétique ukrainien », a-t-il ajouté. L'armée israélienne a mené ce lundi des frappes meurtrières dans la bande de Gaza au lendemain d'une escalade à la frontière israélo-libanaise où la tension avec le Hezbollah ne cesse de monter. Des frappes aériennes et des tirs de chars israéliens ont secoué plusieurs secteurs de la bande de Gaza, selon des journalistes et des témoins. L'armée israélienne a indiqué avoir éliminé durant les 24 dernières heures des dizaines de combattants dans les zones Khan Younes, Rafah et Deir al-Bala. Pendant ce temps, les médiateurs égyptiens, qataris et américains tentent toujours d'obtenir un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, assorti de la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens. Un nouveau cycle de négociations a débuté jeudi au Caire avec les Israéliens. L'Égypte a déclaré qu'elle n'accepterait aucune présence des forces israéliennes le long de sa frontière avec la bande de Gaza, a indiqué ce lundi Al-Kahira News, un média proche des services de renseignement égyptiens, citant une source haut placée. L'Égypte est un pays médiateur clé dans les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien plongé dans une guerre meurtrière depuis plus de 10 mois. Le contingent de policiers kényans déployés en Haïti pour rétablir la sécurité dans le pays des Caraïbes, en proie à la violence des gangs, a enregistré des progrès significatifs, a annoncé ce lundi la police kényane. La police évoque notamment la reprise d'infrastructures essentielles comme l'aéroport. La mission, en collaboration avec la police haïtienne, a également ouvert des routes cruciales qui ont permis le retour de milliers de Haïtiens précédemment déplacés, ajoute un communiqué de la police. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Les autorités de l'Est de la Libye annoncent la fermeture de tous les gisements et terminaux pétroliers ainsi que l'arrêt des exportations jusqu'à nouvel ordre sur fond de crise avec le gouvernement rival de Tripoli. Cette décision de blocage des principales infrastructures pétrolières du pays est une riposte à la prise de contrôle lundi de la Banque centrale de Libye et au remplacement de son gouverneur par les autorités de Tripoli. En Ouganda, 21 personnes ont été arrêtées ce lundi alors qu'elles allaient vers le Parlement et l'ambassade de Chine pour y remettre une pétition contre un méga-projet pétrolier de Total Énergie. Selon la pétition, le méga-projet menace les économies locales de l'Ouganda. Les militants demandent l'arrêt du projet qui comprend le forage de 419 puits dans le parc naturel de Murchison Falls, une réserve de biodiversité dans l'ouest ougandais. Pour terminer, le Danemark prévoit de consacrer plus de 134 millions d'euros d'aide à de nouvelles initiatives bilatérales en Afrique. Dans sa nouvelle stratégie, Copenhague veut se concentrer sur des secteurs comme l'eau, les migrations, la sécurité et les échanges culturels. Rien qu'en 2025, plus de 64 millions de dollars y seront consacrés.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonsoir Mohamedou.
Cannes 2025, les Aigles du Mali prêtent à reprendre les éliminatoires.
Les matchs des première et deuxième journées des éliminatoires de la Cannes 2025, prévus pour septembre prochain, se dérouleront comme prévu pour l'équipe du Mali. Le différend entre les joueurs et la Fédération malienne de football a été résolu, permettant ainsi aux joueurs convoqués de participer pleinement à ces deux rencontres cruciales. Davantage avec Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Une source proche de la fédération nous a indiqué que le capitaine Hamari Traoré, tout comme ses coéquipiers, ont tous reçu leur convocation. C'est dire que sa suspension a été levée. Le 27 juin dernier, pour rappel, la Fédération malienne de football avait suspendu Hamari à titre conservatoire pour avoir critiqué la gestion du football malien. En guise de soutien à leur capitaine, bon nombre de ses coéquipiers avaient eux aussi menacé la fédération de ne pas honorer la sélection nationale si Hamari demeure suspendu. Ça y est, au match de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 contre le Mozambique, prévu le vendredi 6 septembre prochain au stade du 26 mars de Bamako, les joueurs maliens seront là pour défendre le drapeau national. Et quelques jours plus tard, le Mali sera reçu par l'Eswatini au compte de la deuxième journée. Notons aussi que le nouveau sélectionneur des Aigles sera connu dans les prochains jours. Le dossier de l'appel à candidature lancé le 7 août dernier par la fédération a beaucoup avancé. Sur 31 dossiers reçus, 6 ont été présélectionnés. Sur les 6, 3 ont été retenus. Et c'est parmi les 3 que le sélectionneur sera choisi en fonction des critères préétablis. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Argentine, Messi blessé, Dybala appelé.
En l'absence de Lionel Messi blessé, l'attaquant Paulo Dybala a été convoqué ce lundi par le sélectionneur argentin Lionel Scaloni pour les matchs de qualification au Mondial 2026 contre le Chili et la Colombie. L'attaquant de la Roma, âgé de 30 ans, a été ajouté au groupe des champions du monde et récent vainqueur de la Copa América, a annoncé le compte X de l'équipe nationale. Dybala avait déjà suppléé l'absence de Messi, blessé lors de la finale de la Copa América, remportée 1-0 contre la Colombie le 14 juillet. Angel Di Maria, qui a annoncé sa retraite internationale après la Copa América, manque à l'appel. L'Argentine, actuellement en tête des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera en Amérique du Nord, accueillera le Chili le 5 septembre avant de se rendre en Colombie le 10.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Des bandes armées et des groupes rebelles compliquent l'accès aux villages et aux villes où l'on soupçonne la présence des cas de Mpox. Le constat est fait par des responsables gouvernementaux africains au moment où les Nations Unies estiment qu'une prise de conscience est nécessaire pour réduire la recrudescence du virus désigné par l'OMS comme une urgence de santé publique. Reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé au Cameroun. Le récit est de Alexandrine Holoyon.
Les autorités centrafricaines affirment que les agents de santé qui s'efforcent d'endiguer l'épidémie de Mpox se plaignent de difficultés à accéder en toute sécurité aux villes et aux villages où opèrent des groupes armés. Les troupes gouvernementales centrafricaines se battent contre les rebelles pour mettre fin à la violence qui ont commencé en 2013. Pierre Somsé est le ministre de la Santé de la Centrafrique.
Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion. Bahanga particulièrement atteint poste d'observation qui, avec l'appui aussi de VVF qui fait de la surveillance au niveau des animaux. Bien entendu, comme on l'a constaté, il faut renforcer le dispositif de dépistage, de prise en charge. Il faut que nos collègues là-bas soient bien équipés puisque on est ici au cœur même du risque. Les stratégies mises en œuvre au niveau des frontières doivent être renforcées.
La RDC est un autre pays en proie à un conflit armé interne et l'OMS indique que le pays compte plus de 95% des quelque 17 000 cas signalés dans le monde cette année. La RDC a signalé près de 530 décès dus à la maladie. L'ONU indique qu'au cours des derniers mois, le virus s'est propagé à 5 pays voisins de la RDC, dont la Centrafrique, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Longonsa Malassi Joseph, ancien membre de Médecins sans frontières, est aujourd'hui conseiller politique auprès du ministre de l'Environnement de la RDC. Il explique que le virus se propage rapidement parce que les travailleurs humanitaires ont des difficultés à se rendre en toute sécurité dans les communautés sujettes au conflit.
Les gens fuient les zones de conflit et dans cette fuite, il n'y a pas d'observation de l'hygiène. Les gens s'enfuient pour sauver leur vie. Cela pose un problème parce qu'on ne peut pas apprendre aux gens à respecter les mesures sanitaires alors qu'ils sont d'abord en train de fuir pour sauver leur vie. Les professionnels de la santé doivent parfois traverser des zones non sécurisées. Ils peuvent être attaqués, ils peuvent être tués, etc.
Les autorités camerounaises affirment également que les rebelles séparatistes rendent pratiquement impossible l'accès des agents de santé aux régions anglophones où se déroulent des affrontements entre les troupes gouvernementales et les séparatistes anglophones. Depuis juillet, le Cameroun a signalé au moins 40 cas suspects de Mpox, dont 3 décès. Une douzaine de ces 40 cas ont été recensés dans la région anglophone du sud-ouest du pays. Le Nigeria déclare également que ses travailleurs humanitaires sont empêchés de sensibiliser les civils à se protéger du Mpox. 32 États de la Fédération nigériane ont signalé au moins un cas confirmé du virus. Le Nigeria lutte depuis plus de 10 ans contre les djihadistes de Boko Haram. Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo ont déployé des troupes pour protéger les civils et les travailleurs humanitaires. Pour le moment, aucun de ces pays n'a signalé de décès de travailleurs humanitaires.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Cap maintenant sur la Côte d'Ivoire, où nous vous amenons à la découverte du peuple Akan. Cette ethnie du sud ivoirien est très connue pour son système de royauté qui va même au-delà du pouvoir politique. Pour en savoir plus, écoutez ce reportage de notre correspondant Ange Nomigno qui nous fait son historique.
Des sons de tam-tam au rythme de chants et de danse. Les habitants de la ville d'Abengourou s'apprêtent à accueillir leur roi au sein du palais. Vêtu de pagnes et de bijoux en or, ce roi est la plus haute autorité de l'ethnie Akan. Une fois arrivé et installé, un de ses proches collaborateurs prend la parole pour dresser une petite historique du peuple Akan. Kofi Assemian, conseiller auprès de la cour royale d'Abengourou.
Le royaume Ali Gablin de Côte d'Ivoire a été créé par Nana Bendou Assamangé. À la tête de sept chasseurs,
venus du Ghana, président de Dadiasso, le pays hôte qui les a accueillis au sorti de leur exil. Et nous sommes commencés. C'est un lieutenant de Nana Bedoui Assamandjé qui a découvert des pépites d'or dans les racines d'un arbuste, ce qui les a amenés à créer un royaume en Côte d'Ivoire.
Le peuple Akan est composé de plusieurs ethnies, notamment les Agni d'Abengourou. En son sein se trouve une catégorie de femmes prêtresses surnommées les Komian. Ces femmes sont très consultées pour le traitement de diverses maladies. Ange Dongui, élève à l'école des Komian.
Les solutions dépendent des personnes qui viennent nous voir. Vous voyez, il y a des gens qui sont malades. Il y a d'autres qui ne sont pas malades, mais ils ont d'autres problèmes. Donc on règle tout ça. Quand on peut le faire, on le fait. Quand on ne peut pas, on lui dit qu'on ne peut pas. Même quand on doit passer par les hôpitaux, on passe forcément par les hôpitaux avant d'arriver ici.
Les Komian ont créé une école dans leur communauté pour assurer la relève. Mais aujourd'hui, il est difficile pour elles de mener leurs activités à cause de manque de financement. Elles en appellent aux bonnes volontés pour assurer la survie de leur culture. Parfait Bougnan, porte-parole des Komian.
Le centre depuis toujours survit principalement grâce aux efforts de la fondatrice et aussi de bien d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a les pensionnaires, il y a des bienfaiteurs, mais avec les crises, ça devient de plus en plus difficile. Donc, pour pouvoir maintenir ce centre comme patrimoine, le centre souhaiterait que l'État de Côte d'Ivoire l'accompagne avec une subvention.
Les Akans de Côte d'Ivoire sont constitués de 3 sous-groupes, que sont les Akans du Sud, principalement les Baoulés, et les populations assimilées aux Baoulés, les Akans frontaliers, notamment les Agni, les Abrons et les Akans lagunaires, les Ébriers, Abourés, Adugrou, Apollonia, Akié. Ange Bijou Nomeignon pour VOA Afrique, de retour d'Abengourou dans le sud-est de la Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, le colistier de Donald Trump, Jenny Vance, a déclaré dimanche qu'ils ne vont pas imposer d'interdiction fédérale de l'avortement s'il remporte l'élection de novembre. Pendant ce temps, les candidats démocrates Kamala Harris et Tim Walz continuent de faire campagne pour l'avortement après avoir annoncé avoir reçu un record de dons. Véronica Balderas Iglesias de la VOA fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le candidat républicain à la vice-présidence des États-Unis, J.D. Vance, a répondu dimanche dans l'émission Meet the Press sur la chaîne NBC à la question de savoir s'il s'engage à ne pas imposer d'interdiction nationale de l'avortement s'il est élu en novembre. Sa réponse est venue 2 jours après que Trump ait écrit sur sa plateforme Truth Social « Mon administration sera excellente pour les femmes et leurs droits reproductifs ». Mais certains républicains du Congrès font pression pour que l'avortement soit interdit dans tout le pays. J.D. Vance a été interrogé pour savoir si Trump va opposer son veto à ce type de législation s'il revenait à la Maison-Blanche.
Je pense qu'il le ferait, il l'a dit explicitement.
Le ticket démocrate Harris Walz prévient que les droits reproductifs seraient anéantis sous une administration Trump. Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, s'est exprimé sur le même sujet lors de la récente convention nationale du Parti démocrate.
Ils interdiront l'avortement dans tous les pays, avec ou sans le Congrès.
Les démocrates espèrent que le succès de leur convention va se traduire par une remontée dans les sondages. La campagne Harris-Walz a annoncé dimanche avoir recueilli quelque 540 millions de dollars depuis son lancement. Le sénateur indépendant Bernie Sanders a exprimé un optimisme prudent sur le fait que la route de la candidate Kamala Harris vers la Maison-Blanche est toute tracée. Sanders a participé dimanche à l'émission This Week sur ABC.
Je pense que la campagne sera rude. Je pense que la vice-présidente a maintenant de très bonnes chances de gagner. Elle va certainement remporter le vote populaire par des millions de voix et je pense qu'elle a une grande chance de remporter de nombreux États.
Le sénateur républicain Tom Cotton n'est pas de cet avis. Il s'est également exprimé sur ABC.
Donald Trump a déjà été président. Le peuple américain sait ce qu'il a fait. Ils savent qu'il comprend le genre de douleur qu'ils ont subi ces 4 dernières années sous Kamala Harris et Joe Biden et pensent que c'est pour cela qu'ils sont prêts à ramener Donald Trump à la Maison-Blanche.
Les deux camps ont prévu plusieurs événements cette semaine. La candidate démocrate et son colistier vont lancer une tournée en bus en Géorgie ce mercredi. De son côté, le candidat républicain doit tenir une réunion publique jeudi dans le Wisconsin et un autre rassemblement vendredi en Pennsylvanie.
Le directeur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré samedi que les deux astronautes qui ont volé vers la Station spatiale internationale début juin à bord de la capsule Starliner de Boeing devront revenir sur Terre avec un appareil de SpaceX en février prochain. Les problèmes de propulsion de Starliner, qui est en phase de test, rendent le retour avec l'équipage trop risqué. Nathalie Barge revient sur la conférence de presse donnée à l'issue d'un comité décisionnel de la NASA.
Les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Sonny Williams devaient rester une semaine dans la Station spatiale internationale, mais ils vont finalement y rester 8 mois. Le système de propulsion de Starliner a subi des problèmes dès les 24 premières heures de vol, déclenchant des retards à répétition. Bill Nelson, directeur de la NASA.
Space flight is risky.
Les vols spatiaux sont risqués.
Even at its safest.
Même dans les conditions les plus sûres et routinières. Et un vol d'essai par nature n'est ni sûr ni routinier.
And so the decision to keep Butch and Sonny,
la décision de garder Butch et Sonny à bord de la Station spatiale internationale et de ramener le Boeing Starliner à la maison sans équipage est donc le résultat d'un engagement envers la sécurité. Notre valeur fondamentale est la sécurité et c'est notre étoile du Nord.
La NASA a réclamé des analyses supplémentaires, arrivant finalement à un désaccord technique avec Boeing, a déclaré Steve Stitch, directeur du programme d'équipage commercial de la NASA. Lors de la conférence de presse, la question de la confiance entre l'agence spatiale américaine et Boeing a été posée. Steve Stitch, directeur du programme d'équipage commercial de la NASA.
Je n'appellerai pas nécessairement cela de la confiance, je dirais plutôt un désaccord technique où nous réunissons un groupe d'ingénieurs et ils ne sont pas d'accord sur le niveau de risque de ce qui pourrait potentiellement arriver au propulseur. Boeing a fait un travail excellent en construisant un modèle. Maintenant, la question est de savoir si ce modèle est suffisamment bon pour prédire les performances d'un équipage.
Les deux astronautes devraient revenir en février 2025 à bord d'un vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX qui doit être lancé fin septembre dans le cadre d'une mission régulière. Deux des quatre sièges de cet appareil serviront à ramener sur Terre Wilmore et Williams. Norm Knight, directeur des opérations de vol à la NASA.
J'ai parlé avec Butch et Sonny, ils soutiennent pleinement la décision de l'agence et ils sont prêts à poursuivre cette mission à bord de la Station spatiale internationale en tant que membre d'équipage de l'expédition 71.
Boeing assurait début août être confiant dans la capacité de Starliner à revenir en toute sécurité avec l'équipage. Sonny Williams, astronaute de la NASA.
Je suis convaincu que si nous devions le faire, s'il y avait un problème avec la Station spatiale internationale, nous pourrions monter dans notre vaisseau spatial et nous désamarrer, parler à notre équipe et trouver le meilleur moyen de rentrer à la maison. Nous nous sommes beaucoup entraînés, donc j'ai le sentiment que le vaisseau spatial nous ramènera à la maison sans problème.
Boeing espérait que sa mission d'essai Starliner permettrait de racheter le programme en difficulté après des années de problèmes de développement. Starliner regagnera la Terre sans équipage début septembre.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.